France Inter.
Le programme télé servi sur un plateau, c'est Capture d'écran et aujourd'hui Eva Rock, c'est un documentaire historique qui a retenu votre attention.
Et qui se concentre sur les années marquées par l'accession d'Hitler au pouvoir entre 1933 et 1936. Le documentaire intitulé « Avant la catastrophe » repose sur une question. Comment les journalistes américains, anglais et français ont traité ces événements? À quel moment notamment ont-ils perçu la barbarie nazie? En ce début d'année 1933, des persécutions sont déjà commises. Une photo va être diffusée dans toute la presse américaine. On y voit un avocat juif allemand dans la rue, pantalon coupé et pancarte au cou. Explication de l'historien Emmanuel Debono.
Alors qu'il était venu porter plainte, on le tabassa, puis le jeta dans la rue avec cette pancarte. Je ne me plaindrai plus à la police. De nombreux journaux américains choisissent cette photo pour illustrer la terreur nazie.
On sait ce qui se met en place. On sait les premières mesures de persécution, les vitrines cassées, etc. Il y a des images fortes, l'humiliation des Juifs, les premières mesures d'exclusion sociale, qui sont doublées par la mise en place d'un régime, d'une dictature. Donc tout ça, je pense, est facilement assimilé en fait, par l'opinion publique.
Peu à peu, sous l'autorité du ministère de la Propagande dirigé par Goebbels, tout est mis en œuvre pour faire taire la population allemande. Les journalistes perdent ainsi leur premier témoin.
Mais ils peuvent continuer à travailler, à rendre compte des faits?
Alors dans un premier temps, oui, mais la pression s'accentue sur les journalistes étrangers, écoute téléphonique, domicile fouillé. Et puis arrive le coup de force d'Hitler et Goebbels, comme le raconte l'historien Nicolas Patin.
Hitler et Goebbels, complètement pris dans leur paranoïa antisémite, estiment qu'évidemment la presse internationale est tenue par les juifs. Pour eux, c'est complètement logique. Et donc, leur idée machiavélique, qui aujourd'hui apparaît comme totalement folle, c'est de dire, puisque les journalistes internationaux sont pour la plupart juifs, nous allons menacer les juifs allemands, et comme ça, nous allons faire taire la presse internationale.
S'ensuivra une journée de boycott des boutiques tenues par des juifs. La presse française relate cet événement sans percevoir réellement ce qui se joue. Quelques semaines plus tard, opération transparence. Le gouvernement allemand invite des patrons de presse internationale, récit par le journaliste Daniel Schneiderman.
Plusieurs patrons de presse américains, notamment, viennent visiter l'Allemagne au cours de l'année 33. Et sont impressionnés par une Allemagne qui se remet au travail, par une Allemagne où règne l'ordre. Ça leur plaît, ça, à des patrons capitalistes. On a un certain nombre d'exemples qui seront racontés ultérieurement dans les souvenirs, de débats entre les journalistes sur place et leurs patrons, les journalistes disant « Attention, il y a quand même des problèmes avec l'opposition, avec les Juifs », et les patrons disant « Mais moi, ce que je vois, c'est un pays formidable où l'ordre règne ».
Nombreux sont les journalistes à percevoir la nature du régime politique mis en place par Hitler, mais il est parfois difficile de tout relater pour les correspondants qui sont régulièrement menacés d'expulsion. Dans la presse militante, des voix discordantes se font entendre. C'est le cas de Daniel Guérin, envoyé par Léon Blum pour le journal Le Populaire, et voici ce qu'il écrit.
À quelques centaines de kilomètres d'ici, des hommes comme nous se meuvent dans un autre monde, un monde fermé, où rien de ce qui compose nos habitudes de penser, de sentir, de combattre, n'est plus admis. Un socialiste voyageant aujourd'hui de l'autre côté du Rhin a comme l'impression d'explorer, après un tremblement de terre, une cité en ruine. La peste brune a passé par là.
Les articles sur les lois de Nuremberg seront rares. De la même façon, la presse ne boycottera pas les Jeux Olympiques de 1936 où toute trace visible de discrimination a été effacée. Sans jugement de valeur, le réalisateur Jean Bulot pose d'excellentes questions. Comment raconter la naissance d'un régime autoritaire? Comment résister? Et rendre compte avec la plus grande justesse d'événements dont il est difficile d'imaginer la portée historique.
Avant la catastrophe, la naissance de la dictature naziste, un documentaire à voir sur LCP ce soir à partir de 20h30 et c'était la capture d'écran d'Eva Rock.
Et il faut lire L'Ordre du jour d'Éric Vuillard qui raconte vraiment ça, qui est un Goncourt, je sais plus, 2016, 2017 ou un truc comme ça. Et c'est exactement ça, c'est vraiment sur comment le régime a bénéficié finalement de plein de soutien.
Et bien voilà, deux conseils en un ce matin, merci beaucoup.